VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 1er juin 2016. À la une ce soir.
3 policiers tués dans une attaque dans le nord du Burkina Faso.
4 morts, bilan d'une attaque terroriste à Gao, dans le nord du Mali.
Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut tenir une promesse de campagne. Il a demandé à un groupe d'experts de travailler sur un avant-projet de constitution.
L'abbé Malou Malou, ancien président de la CENI en RDC, est décédé aux États-Unis.
Monsieur l'abbé Malou Malou est décédé hier soir. Il était à Atlanta.
Fusillade dans une université sur la côte ouest des États-Unis. On confirme au moins 2 morts.
Nous allons rappeler à tous les chefs d'État qu'il y a des obligations et que la Gambie ne respecte pas ses lois.
Et nous entendrons, comme vous venez de l'entendre, la situation des droits humains en Gambie.
Bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal. D'abord, on apprend qu'une voiture piégée a explosé aujourd'hui à l'hôtel Ambassadeur dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne. Des sources concordantes, jointes par l'AFP, font état de combats en cours à l'intérieur du bâtiment. L'attaque a fait un nombre indéterminé de victimes, les Chebabs. Ont revendiqué la responsabilité de cette attaque. Par ailleurs, le cerveau de l'attaque islamiste de l'université de Garissa au Kenya a été tué en Somalie, indique l'AFP, citant un responsable local somalien.
2 attaques dans le Sahel la nuit dernière. La base de la MINUSMA à Gao, au Mali, a été attaquée, coûtant la vie à un casque bleu chinois. Toujours dans la région, côté Burkina de la frontière, c'est un commissariat qui a été pris pour cible. 3 policiers sont morts. Les derniers détails avec Nicolas Pinault.
Oui, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, Simon Compaoré, l'attaque a eu lieu vers minuit à Intangom, à quelques kilomètres de la frontière avec le Mali. Des assaillants non identifiés ont attaqué le commissariat, tuant 3 policiers avant de prendre la fuite. Simon Compaoré s'est rendu sur place ce mercredi avec d'autres ministres. Il a annoncé des renforts dans la région et selon le ministre burkinabé, la piste djihadiste semble la plus sérieuse. La nuit dernière, au même moment, côté malien de la frontière à Gao, c'est la base de la mission de l'ONU qui a été attaquée. Un casque bleu chinois et 3 civils travaillant pour les Nations Unies à Gao ont été tués dans cette double attaque, comme l'ont confirmé la MINUSMA et le ministère chinois des Affaires étrangères. Des mortiers ou des roquettes ont d'abord été tirés sur le camp situé au quartier Château d'Eau. Puis 2 agents maliens privés de sécurité et un expert international ont été tués lors d'une autre attaque à l'arme légère qui a ciblé le local d'un prestataire de services de l'ONU situé dans un autre quartier de Gao.
Au Sénégal, Ibrahim Assey, un imam et professeur d'histoire et de géographie dans un lycée de Kolda, a été condamné à 1 an de prison ferme pour apologie du terrorisme. Lors d'un prêche en septembre 2015, il avait affirmé que tous les militaires envoyés au Mali sont des mécréants, en référence notamment au contingent sénégalais de la force de l'ONU dans ce pays.
En Algérie, 8 islamistes ont été tués la nuit dernière lors d'une opération militaire près de Guelta Zerka, à quelques 40 kilomètres à l'est de Sétif, selon le ministère algérien de la Défense.
Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a donné 30 jours à un groupe de 10 experts pour faire des propositions pour un projet de nouvelle constitution. C'était l'une de ses promesses électorales, Éric Manirakiza.
Le président Ouattara a choisi un professeur de droit pour diriger son équipe d'experts. Boniface Obou-Raga, qui a promis une constitution plus consensuelle, avait joué un rôle dans la rédaction de la constitution actuelle. Le ministre de la Justice, Kambilé Sansa, est de la partie, sans oublier l'ancien patron de la fonction publique, Cissé Ibrahim Bakongo, un haut cadre du RDR, le parti de M. Ouattara, et fervent partisan des mandats illimités. La volonté affichée du président ivoirien de renforcer le processus de réconciliation en s'appuyant sur un texte modifié pour garantir l'égalité de tous, la cohésion nationale et la stabilité des institutions ivoiriennes. Cette réforme de la Constitution s'avère donc une mission périlleuse pour satisfaire toutes les parties. Le pays se remet difficilement de la crise post-électorale de 2010-2011 et M. Ouattara a été réélu en octobre dernier, avec un faible taux de participation.
Fin de la transmission du virus Ebola en Guinée, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, alors que le pays a passé 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation, sans nouveaux cas. La Guinée rentre donc dans la phase de surveillance soutenue de 90 jours.
Au Nigeria, le groupe rebelle NDA, les vengeurs du delta du Niger, a revendiqué aujourd'hui sur Twitter les attaques contre les installations du géant pétrolier américain Chevron. NDA est le plus actif des groupes rebelles et a récemment émergé dans le delta du Niger. Ces dernières semaines, ils ont mené plusieurs attaques contre Shell, Chevron et la compagnie nationale nigériane NNPC.
Dans l'est de la RDC, plus de 12 morts, une vingtaine de blessés et plus de 500 maisons emportées par les eaux. C'est le bilan des récentes pluies diluviennes sur 5 villages du territoire de Lubero, près du lac Édouard.
Toujours concernant la RDC, décès mardi soir aux États-Unis de l'abbé Malu Malu, ex-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante congolaise. La réaction de l'ambassadeur de la RDC à Washington, François Balomone, au micro de Nicolas Pinault.
Monsieur l'abbé Malu Malu est décédé hier soir. Il était à Atlanta. Ce qui reste, c'est des préparatifs pour le rapatriement du corps au pays et pour cet enterrement. Là, on attend ses instructions pour cela. C'est un homme qui a été très apprécié quand il a eu à organiser les premières élections démocratique dans notre pays en 2006. Ça s'est passé assez très bien. Il était un homme honnête. Il a bien organisé les élections et c'est ainsi qu'après les élections chaotiques de 2011, il a été de nouveau fait recours à lui pour la suite de processus électoral.
François Balomone, ambassadeur de la RDC à Washington.
Le procès pour trahison de l'opposant historique ougandais Kizza Besigye s'est ouvert aujourd'hui à Kampala en l'absence de l'accusé. Le procureur affirmant qu'il n'avait pas pu être transféré au tribunal en raison d'une menace spécifique pour la sécurité. Le procès a dès lors été rapidement ajourné au 15 juin. L'opposant qui conteste la réélection en février du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président.
Et le gouvernement français a exprimé aujourd'hui sa vive préoccupation suite aux menaces visant le journaliste burundais Esdras Ndikumana, accusé par les autorités de Bujumbura d'incitation à la violence dans sa couverture de la crise au Burundi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, la police a confirmé aujourd'hui 2 victimes de fusillade dans la célèbre université UCLA de Los Angeles, dans l'ouest du pays, dont le vaste campus est actuellement bouclé. Nous avons 2 victimes, a déclaré sans plus de détails sur leur identité ou leur statut un porte-parole de la police de Los Angeles à l'AFP. Un autre porte-parole de la police avait donné le même bilan quelques minutes plus tôt. UCLA a également confirmé sur son compte Twitter que la police confirme 2 victimes de fusillade à UCLA. Le campus reste bouclé.
Lutte contre le groupe État islamique. Au 10e jour de leur offensive, les forces irakiennes soutenues par les États-Unis peinent à avancer dans la ville de Fallujah. Des centaines de djihadistes font de la résistance. Maëlys Hegel.
Lundi, les forces irakiennes, aidées de miliciens chiites et de membres de tribus, étaient parvenues à entrer à Fallujah. Les djihadistes contrôlent cette ville depuis janvier 2004. L'assaut est appuyé par l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Les commandants irakiens affirment avoir tué des dizaines de djihadistes depuis le début de l'offensive le 23 mai. Mais selon un colonel de la police, à chaque fois que les forces essaient d'avancer, ils font face à des systèmes de défense mis en place par Daesh. Quelques 50 000 civils sont toujours bloqués dans le centre de Fallujah, dont au moins 20 000 enfants qui, selon l'UNICEF, risquent leur vie et leur avenir. L'UNICEF a appelé à l'ouverture de passages sécurisés pour leur permettre de quitter la ville. L'ONU accuse le groupe État islamique de les utiliser comme boucliers humains.
Le groupe État islamique fait face à une double offensive, ses positions en Syrie subissant également des attaques de la coalition et des forces sur le terrain. Un nouveau front s'est ouvert contre Daesh dans le nord du pays où 18 frappes ont notamment détruit sur les dernières 24 heures un poste de commandement, des tours de communication, 6 ponts utilisés par les djihadistes et 8 positions de combat selon les autorités américaines. Après l'attaque lancée il y a une dizaine de jours près de Raqqa, le bastion de Daesh en Syrie, les forces arabo-kurdes soutenues par la coalition internationale tente depuis hier de reprendre la ville de Manbij, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Un tribunal saoudien a condamné à mort 14 personnes originaires de l'est du royaume où se concentre la minorité chiite. Les condamnés à mort font partie d'un groupe de 24 personnes qui étaient jugées pour meurtre d'agents de sécurité et vol de passants à Awamiya, une petite ville qui a connu plusieurs incidents depuis 2011, quand les chiites ont commencé à protester contre leur marginalisation par la majorité sunnite.
La grogne sociale qui secoue la France depuis la promulgation de la loi travail ne montre aucun signe d'accalmie. Pour la 8e fois depuis mars, les cheminots font grève, cette fois pour une durée illimitée. D'autres secteurs liés au transport pourraient aussi connaître bientôt des arrêts de travail, y compris la compagnie aérienne Air France. Le gouvernement de Manuel Valls a jusqu'ici refusé de céder aux pressions de la rue.
Les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Ces sanctions visent à restreindre encore davantage l'accès de ce pays asiatique au système financier international. Raison évoquée par le Trésor américain, la menace posée par le régime communiste de Pyongyang. Une fois finalisées, ces mesures désigneraient le régime de Pyongyang comme un foyer de blanchiment d'argent et limiteraient drastiquement la possibilité pour les établissements financiers étrangers de mener des transactions avec la Corée du Nord.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
En RDC, le conseil d'administration et la direction générale de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, sont dessaisis de leur pouvoir de gestion. Il leur est substitué le comité de gestion provisoire. C'est ce qu'indique un communiqué signé par le gouverneur de la Banque centrale de la République du Congo, BCC. Des difficultés de trésorerie seraient à l'origine de cette décision visant à redresser et préserver l'épargne des clients. Selon la BIAC, un retrait d'une ligne de refinancement mensuel d'environ 40 milliards de francs congolais auprès de la BCC aurait poussé cette dernière à couper les robinets des liquidités sur décision du gouvernement. Relevant que le système bancaire congolais continue de souffrir des deux guerres qu'a connu le pays entre 1997 et 2003, et le pourcentage d'adultes disposant d'un compte reste parmi les plus faibles en Afrique. Nucléaire à présent, le projet sud-africain de réacteur nucléaire d'une capacité de production de 9600 MW est en attente depuis le début des années 2000. Son coût élevé d'environ 40 milliards d'euros soulève la controverse parmi les pays intéressés tels que la Chine, la Russie, la France, la Corée du Sud et les États-Unis. Pascal Colombani, envoyé spécial du président français François Hollande pour le partenariat nucléaire avec l'Afrique du Sud, estime que la France peut faire valoir plusieurs atouts face à ses concurrents dans la mise en production de la nouvelle centrale qui devrait se faire au milieu de la prochaine décennie. Le réseau électrique de l'économie la plus industrialisée d'Afrique, basé essentiellement sur le charbon, frôle en permanence la saturation.
Et maintenant, la page sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Série de matchs amicaux sur la planète football.
L'Espagne écrase la Corée du Sud 6 buts à 1. À suivre ce soir, Belgique-Finlande et Pologne-Pays-Bas.
Suite de la polémique sur la non-sélection de Karim Benzema en France.
Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Karim Benzema a justifié son absence en équipe de France pour l'Euro en lançant une polémique spectaculaire sur des questions qui fracturent la société française bien au-delà du football. C'est ce qu'a déclaré l'attaquant du Real Madrid dans une interview au journal Marca, et ce à 9 jours de l'Euro en France.
Suite du procès de Messi pour fraude fiscale.
Deux anciens avocats de l'attaquant star du Barça, Lionel Messi, ont assuré devant le tribunal de Barcelone que l'Argentin, jugé pour fraude fiscale, ne savait rien de la gestion de sa fortune, tout en détaillant les mécanismes qui visaient à réduire ses impôts. Lionel Messi, 28 ans, est poursuivi pour avoir évité le paiement de plus de 4 millions d'euros au fisc au titre des bénéfices tirés de ses droits à l'image. Entre 2007 et 2009, il n'a pas assisté au procès, mais sera entendu ce jeudi par le tribunal.
Et un peu de tennis à Roland-Garros.
Serena Williams n'a mis que 62 minutes pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros à Paris, aux dépens de l'Ukrainienne Elina Svitolina, qu'elle a battue en 2-7, 6-1, 6-1. L'Américaine numéro 1 mondiale affrontera la Kazakh Yulia Putintseva, 60e joueuse mondiale au prochain tour. Quant au Britannique Andy Murray, il s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en battant le Français Richard Gasquet en 4-7, 5-7, 7-6, 6-0, 6-2. Murray, deuxième joueur mondial, affrontera le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, dans sa quatrième demi-finale à Paris. Le Suisse Stan Wawrinka s'est qualifié en battant l'Espagnol Albert Ramos en 3-7, 6-2, 6-1, 7-6.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Sénégal.
Les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront vendredi à Dakar, la capitale sénégalaise, pour un sommet ordinaire. Plusieurs organisations de défense des droits humains tiennent une conférence de presse demain dans la capitale sénégalaise. Elles comptent faire un plaidoyer sur le bilan déplorable des droits de l'homme en Gambie et appeler ce pays à respecter les libertés individuelles. Nani Talani a joint à Dakar Steve Cockburn, représentant d'Amnesty International en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
Il y avait les manifestations pacifiques qui étaient réprimées ces derniers deux mois. Il y avait des opposants qui étaient battus par les forces de l'ordre. Il y a toujours 87 personnes qui restent en détention suite à ces manifestations. Et il y avait même une personne qui est morte en détention, qui s'appelait Solo Sandeng, qui était torturée par les forces de l'ordre, qui est morte suite à cette violence. Et donc c'est un contexte très très difficile pour les partis de l'opposition en Gambie. C'est aussi très difficile pour les journalistes qui sont aussi ciblés avec les arrestations et les fermetures des organes de presse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le journalisme est le métier le plus dangereux en Gambie. Donc il y a beaucoup de journalistes qui fuient le pays parce qu'ils ont peur de pouvoir faire leur métier. Au-delà de ça, il y a une société civile qui a été réprimée, qui a peur de s'exprimer. Il y avait par exemple une syndicaliste, le leader d'une association des transporteurs, Sheriff Tiba, qui était arrêté il y a quelques mois et qui est mort aussi en détention en février. Il y avait un imam en octobre qui avait présenté une pétition au palais présidentiel. Il a présenté cette pétition pacifiquement. Il a été arrêté et il reste en détention depuis 8 mois sans avoir accès à sa famille ou son avocat. Ce type de violation qui existe en Gambie en ce moment, qui crée un climat de peur dans lequel la population ne peut pas s'exprimer facilement. Nous demandons d'abord aux autorités gambiennes de libérer les détenus politiques et de changer les lois répressives, mais aussi de demander aux chefs d'État de la CEDEAO de prendre les mesures plus efficaces pour s'assurer que la Gambie respectent les obligations des droits humains qu'ils ont signées dans les traités de la CEDEAO.
Alors, vous avez prévu inscrire à l'ordre du jour la situation des droits de l'homme en Gambie. Comment comptez-vous contraindre les chefs d'État de la CEDEAO à inscrire dans leur agenda la situation déplorable des droits de l'homme en Gambie?
Donc d'abord, nous allons exposer les graves violations qui ont été commises en Gambie et qui sont à l'encontre des obligations et des traités que chaque membre de la CEDEAO a pris en tant que membre de la CEDEAO. Donc nous allons exposer ces violations. Nous allons rappeler à tous les chefs d'État qu'il y a des obligations et que la Gambie ne respecte pas ces lois. Il y a 3 jugements, par exemple, de la Cour de la CEDEAO contre la Gambie qui n'a jamais été respectée. Il y a des traités qui n'ont pas été respectés.
Steve Cockburn, représentant d'Amnesty International en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
Des Nations Unies basée à Gao a été la cible d'une double attaque terroriste et c'est ACMI qui la revendique. Le bilan varie d'une source à l'autre et les populations sont très inquiètes. Elles s'interrogent sur leur sécurité. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
La mission onusienne basée à Gao a été l'objet d'une double attaque ce mardi dans la soirée aux alentours de 20h45. Une première attaque à la voiture piégée au niveau de leur quartier général situé à Bulgundje, tenue par le contingent chinois. Le bilan à ce niveau varie d'une source à l'autre. Selon l'aménagement, c'est un casque bleu qui a été tué et une dizaine de blessés, alors que des agents civils de sécurité qui travaillent à ce niveau parlent d'au moins 3 morts et plusieurs blessés et de dégâts matériels importants. Au niveau du local d'un prestataire de services qui abrite le service de lutte anti-mine des Nations Unies situé au quartier Château Extension. Le bilan est de 3 morts, dont 2 agents civils de sécurité et un expert anti-mine. Dans les rues de Gao, nous avons tendu notre micro à certaines personnes. Voici leur réaction.
Le dégât d'hier soir, on est beaucoup effrayé. On est beaucoup effrayé. Chez moi, il y a des bois qui sont tombés. Il y a mes fenêtres, les portes, là, tout est enlevé. Donc, je ne sais plus comment pu faire encore. Je connais une femme qui est enceinte. Elle a eu à faire un avortement ticotac avant même de l'amener à l'hôpital. J'ai une sœur qui n'était pas là au moment de l'occupation. Mais hier soir, quand elle a entendu le bruit, elle était devenue folle. Et tout si je viens de quitter chez elle, jusqu'à présent, elle n'a pas l'esprit tranquille.
Gao est devenu un no man's land. Tous les jours, tu vois des gens qui portent des armes. On ne sait même pas qui est qui. Les gens de Kidal sont là avec leurs armes, sous casquette du Gatia ou du MNLA ou MAA. Personne ne les contrôle. Au niveau des postes, il n'y a pas de contrôle. À l'intérieur des Gao, il n'y a pas de contrôle. On ne sait même pas qui est qui à Gao. Tu vois, quand tu es dans la ville, tu vois des véhicules qui ne contiennent aucune immatriculation. Tout le monde est là, quoi. Et puis, ces gens-là, ils n'ont pas quitté ailleurs. Hein. Les terroristes sont à l'intérieur des Gao. Donc, vraiment, c'est déplorable.
Moi, c'est ma première fois d'assister à un tel attentat. Donc, vraiment, je suis très choqué du fait que j'ai des frères qui sont morts là-dedans, j'ai eu des frères qui sont blessés. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent de la région de Gao? Qu'est-ce qu'ils réclament? Parce que nous, on nous voit vraiment innocents dans cet acte. Qu'est-ce que nous avons à voir avec Al-Qaïda, avec Acmi, avec Boko Haram?
Il n'y a pas de patrouille régulière, puis les gens sont là, ceux qui font du mal aux gens même sont à l'intérieur de la ville. Il faut vraiment que la sécurité soit un peu plus radicale, quoi. Il y a tellement de pays, des grandes puissances ici, et puis que des attentats comme ça, c'est facile. En pleine ville aussi. S'ils peuvent un peu se bouger, c'est bien aussi qu'ils déménagent, qu'ils quittent la ville. Parce qu'ils font de tout le monde des cibles actuellement. Un camp en pleine ville là. Moi, j'ai jamais vu ça, je sais pas, à Gao.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Hissène Habré en procès pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien chef d'État du continent pour crime contre l'humanité dans un pays autre que celui de l'accusé. La procédure contre l'ex-président tchadien peut-elle servir de modèle pour juger d'autres ex-leaders africains pour violation présumée des droits de l'homme? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en partenariat avec le gouvernement tchadien, forme les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires de la région de l'Ennedi-Est sur la protection internationale des réfugiés. La formation se déroule à Amjaras, chef-lieu de la région de l'Ennedi-Est, à plus de 1000 kilomètres de la capitale. Y prennent part les nouvelles autorités administratives, civiles et militaires du pays. Écoutons la correspondance d'André Kodmajingar.
Amjaras, une région située dans l'est du Tchad, abrite plus de 27 000 réfugiés qui ont fui le conflit du Darfour. Ils vivent actuellement dans le camp de Ouré Kassouni, situé à 7 km de la frontière avec le Soudan depuis plus de 10 ans. L'OSR veut s'assurer qu'avec la mutation des nouveaux responsables dans les structures étatiques de la région et surtout avec le déploiement des éléments de force mixte Tchad-Soudan, ceux-ci assument-ils leurs responsabilités de protection des réfugiés conformément aux conventions internationales signées et ratifiées par le Tchad. Sous Patrice Awansou est l'administrateur principal du SR sous délégation de l'Est.
C'est une région qui est caractérisée par la présence des forces mixtes qui, au-delà de leur fonction première, elles interviennent également dans la chaîne de protection. Et pour ce faire, le SR a jugé opportun en fait, d'organiser une séance de renforcement de capacités pour pouvoir échanger sur la responsabilité dans la protection et aussi mieux prévenir les violences, mieux outiller les différents acteurs de protection à intervenir dans l'efficacité, dans la prévisibilité et dans la redevance.
Prévenir les violences, oui, car les jeunes filles réfugiées font l'objet quotidien de viols, comme en témoignent quelques-unes.
Notre sécurité est assurée que dans le camp. Mais malheur à toi, si tu sors en dehors du camp à la recherche du bois du chauffe, des garçons et quelquefois des hommes en tenue militaire sortiront de nulle part pour t'attaquer. Si tu es faible, ils finiront par te violer.
Information confirmée par le vice-président du camp de Ouré Kassouni, Adam Souleyman. Pour lui, cette formation, la première du genre, est une occasion pour les autorités administratives et militaires de la zone de connaître les droits et devoirs des réfugiés longtemps bafoués et permettra la réduction des violences sexuelles exercées sans état d'âme sur les réfugiés.
Une réfugiée qui serait violée au niveau du local du dépachère par un des agents pendant qu'elle était en détention préventive. Il y a eu assez de cas de viol. Lui-même, il a participé à la résolution de deux cas au niveau de la sous-préfecture avec l'intervention de la force mixte. Donc maintenant, lui, il fait un plaidoyer auprès des hautes autorités qu'on leur envoie de personnes qualifiées au niveau de l'administration pour les aider à mieux gérer le problème.
Le sous-préfet de Cariari, colonel Hassan Targari, reconnaît qu'il y a violence basée sur le genre. Mais il déclare par ailleurs que le phénomène de viol dont on en parle au quartier n'est pas récurrent dans sa circonscription. André Kodouma Djingar Ramdjaras pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Plus de 1000 participants, une cinquantaine de pays représentés, Discop Africa s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de l'audiovisuel africain. Anastasie Tudiech a assisté à la deuxième édition.
En 2015, le secteur audiovisuel a généré 550 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur le continent. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les retombées financières ne sont pas les seuls avantages de l'audiovisuel.
Je pense que le développement d'un pays, ce n'est pas seulement l'économie. Ce sont d'abord des valeurs, et les valeurs, c'est lié à la culture. Et la culture est essentielle pour notre développement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous... enclin à participer à ce genre donc, de manifestation.
Au programme, des ateliers consacrés au métier de la télévision, allocution sur la place du numérique dans l'audiovisuel africain, mais c'est l'espace d'exposition qui attire le plus. Les transactions entre acheteurs et vendeurs sont la raison d'être de l'événement. Et ils permettent, selon la ministre de la Communication, Afousiata Bambalamine, de structurer un marché audiovisuel africain francophone qui en a bien besoin.
En plus du cadre institutionnel, c'est de leur permettre aussi de nouer des partenariats. Et c'est en cela que le Discop est intéressant. Parce que contrairement à certains pays, et je l'ai dit, comme le Nigeria ou comme le Kenya, qui eux, très rapidement, ont réussi à encadrer, à vraiment développer cette industrie-là. Nous avons été, bien sûr, en avance, parce que la première année qu'il y a eu la télé en Côte d'Ivoire, c'était quand même 1963, ce qui prouve qu'on aurait pu être en avance. Mais malheureusement, du fait de notre histoire personnelle, nous avons eu du retard. De sorte que ce retard-là, nous pouvons essayer de le rattraper aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, a certes du chemin à faire, mais le futur est déjà là. Tonji Barkan, président d'AfroStream, site internet dédié aux productions audiovisuelles africaines à la demande.
Alors, au Discop Africa se retrouvent les plus grands producteurs d'Afrique. Ceux qui racontent l'Afrique de demain sont là et l'idée c'est de les accompagner, leur proposer des contrats de production, des financements pour pouvoir justement divertir tout un continent et toute la diaspora.
Donc vous êtes là pour acheter du contenu ? Vous n'en avez pas assez ?
Nos abonnés nous demandent de plus en plus de contenu, donc l'idée c'est de pouvoir les satisfaire donc, avec les contenus qui existent déjà et anticiper leurs besoins.
Un besoin de produits qui correspondent aux attentes des consommateurs africains. Dans ce contexte, l'annonce par la ministre de la Communication de la prochaine libéralisation de l'audiovisuel ivoirien semble être une évolution logique du secteur.
Merci Anastasie Tudiech qui était à Abidjan en compagnie de Salwa Jaafari qui a contribué à ce reportage.
Salut les amis, ici votre gars Roger Montou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001 202 619 3140. Envoyez-nous vos SMS au 001 703 350 37 31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Montou de RM Show. Peace Africa!
c'est la fin de cette édition. Joselle Morissin en a assuré la mise en onde. À la console, Jackson Huit. Présentation, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous, plus d'un million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.